Comme chaque lundi, un invité vient nous parler de notre bien-être. Mais comment continuer à parler de notre développement personnel sans se préoccuper de notre planète? C'est pour ça que cette année, sur Tout va bien, je me prends en main. J'inviterai régulièrement des intervenants qui viendront nous expliquer pourquoi il est tant et si urgent de changer de comportement et surtout pourquoi. Alors, Pierre Portevin, mon invité d'aujourd'hui, est déjà venu nous parler de ses deux livres, « Mon meilleur ami, c'est moi » et « Oser, ça change tout ». Alors, vous êtes coach de vie, personnel et professionnel. Vous accompagnez des personnes qui ont envie de faire évoluer leur vie ou leur pratique managériale. Vous donnez aussi des formations sur des sujets tels que la bienveillance envers soi et envers les autres, le courage de se dépasser, la curiosité et la persévérance, et bien d'autres. Aujourd'hui, vous venez nous parler de votre participation en tant que membre et plume de l'université d'été pour dirigeants. Ça s'appelle Transmutation. Et pour le livre dont vous avez coordonné la rédaction avec le fondateur de Transmutation, Stanislas Van Wassenhoven, pour le 10e anniversaire de cet événement. Un livre passionnant et très inspirant, rassemblant les idées de 60 contributeurs de renom. Bonjour. Alors, je précise, j'ai le livre. Alors, effectivement, ça ne se lit pas comme un roman. Vous prenez, il faut le lire chapitre par chapitre et selon son inspiration du jour, parce que sinon, c'est ardu, mais c'est ultra intéressant. Alors, avant de poser ma première question, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces universités d'été et transmutation? Et puis ensuite, qu'est-ce que veut dire transmutation?
Merci de m'accueillir à nouveau. Alors, Transmutation, c'est une université d'été, c'est-à-dire une rencontre que l'on fait depuis 10 ans, deux jours assez formidables à la fin du mois d'août, où l'on rassemble une série de dirigeants d'entreprises publiques, privées, d'organisations, des recteurs d'université, des gouverneurs de province, et pendant deux jours, on leur propose d'écouter les points de vue d'une série d'orateurs qu'on a choisis autour d'un thème donné. Alors les thèmes, ils ont évolué d'année en année. Hein. Au début, c'était plutôt performance et bonheur. Est-ce que c'est compatible? On a beaucoup parlé du bonheur en entreprise, même si c'est un peu galvaudé, c'est un peu n'importe quoi. Sens et connaissances, valeurs et volatilité. On a toute une série de thèmes, notamment dernièrement, audace et résistance, révolution responsable, avec des orateurs. Ce sont toutes des personnes qui ont écrit au moins un livre. On a ce critère-là pour les choisir, parce que quelqu'un qui a écrit un livre est censé au moins maîtriser un peu le sujet qu'il présente, et souvent c'est d'excellents orateurs.
Il y a Serge Tisseron, j'ai vu, et il vient jeudi en Belgique, et il vient à l'émission en octobre, je crois, fin octobre.
Il est passionnant. Serge Tisseron est venu, en effet, comme d'autres psychiatres, Christophe André, Christophe Fauré. On a des personnes plus clivantes, comme Laurent Alexandre, ce chirurgien qui est aussi un homme d'affaires, qui a créé Doctissimo et l'a vendu au bon moment, qui a des points de vue sur l'intelligence et sur les enjeux, notamment, de la complémentarité entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et le besoin de revoir notre éducation. On avait Pierre Giorgini, qui est le recteur, passionnant recteur de l'Université de Lille. Qui est
et ceux-là ne sont pas tous venus cette année, ça c'est
non,
sur les
ça, c'est
10
sur
ans.
Sur les 10 ans, mais ils ont tous, en tout cas tous ceux que je cite, ont contribué au livre. Ce livre que j'ai coordonné avec Stanislas, qui est le fondateur de Transmutation. Alors, pour expliquer justement cette université d'été, c'est une idée que Stanislas a découverte à Bordeaux, parce qu'il y a une université comme ça, où des gens se rencontrent et réfléchissent sur un thème donné pendant deux jours. Et il s'est dit, il faut que ça existe en Belgique. Et donc, il a ameuté une bande d'amis.
12 Belges? Non, ils ne sont pas Belges.
Les organisateurs de Transmutation sont... Enfin, moi, je ne suis pas belge, mais ce n'est pas grave, mais je suis bruxellois, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Mais on est une équipe, il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Il y a l'ancien recteur de l'université de Louvain, Bernard Couly. Il y a Laurent Ledoux qui organise Philosophie et Management. Il y a Thomas Dermine qui est monsieur relance de la région de Charleroi. C'est lui qui a réussi le projet Catch de relancer le site de Caterpillar. Il y a Christelle Dubieuzard, tout à fait passionnante femme qui travaille à la Commission européenne, qui est très engagée pour tout ce qui touche à l'éducation, la méditation notamment dans les écoles. Gaëtan Seni, un jeune, alors un peu moins jeune maintenant, mais jeune quand il nous a rejoint, enfin il est toujours jeune d'esprit, nous aussi d'ailleurs. Et Gaëtan, lui, il est vraiment impliqué dans la reconfiguration de certains contrats de bail qui permettent à des propriétaires terriens de mettre leurs terres à disposition d'agriculteurs sans pour autant être piégés pour 30 ans. Et c'était un vrai problème, parce qu'il y avait plein de propriétaires, du coup, qui ne voulaient plus mettre leurs terres.
Et tout ça, tous ces gens sont rassemblés pour créer les universités d'été en Belgique.
Absolument.
Et de là est créée Transmutation.
Alors, non. C'est l'équipe Transmutation,
d'accord.
Ça.
Et Transmutation veut dire quoi ?
Alors, la mutation, vous savez ce que c'est. C'est quand quelque chose passe d'un état à un autre. Et pour nous, Transmutation, c'est ce qui favorise le fait de passer d'un état à un autre. Si ce n'est que c'est une mutation continue dans laquelle nous sommes. Et ce qu'on souhaitait faire, c'était sensibiliser les dirigeants, parce qu'ils ont un impact fort sur notre pays. Ce sont des dirigeants francophones, puisqu'on en fait toute l'université est faite en français. C'est aussi une volonté de notre part pour faciliter les liens entre les personnes et le fait que chacun puisse s'exprimer dans sa langue natale. À peu près tout le monde est francophone. Mais il y a des grands patrons qui sont là, que ce soit Proximus, la STIB, recteur de 4 grandes universités francophones belges. C'est du beau monde et chacun invite aussi à sa table une série de personnes.
Et on peut venir ou bien ce n'est que pour ceux qui participent au débat ?
Alors, c'est un système, parce qu'on ne voulait pas avoir cette difficulté de convier du monde et de gérer des inscriptions difficiles. Alors, on a travaillé avec un système de parrainage, c'est-à-dire qu'on a en fait 25 personnes qui sont les parrains, qui sont les dirigeants de ces entreprises, universités, pouvoirs publics, et eux réservent chacun une table pour 8 personnes.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais comme ça a beaucoup de succès, et qu'on ne veut pas croître, on est une ASBL, on travaille pour la beauté de l'art, je dirais, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et par la nécessité absolue de mettre en place des changements rapides et toujours plus rapides. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, on a choisi de ne pas croître, de ne pas augmenter la taille de la salle alors qu'on avait de la pression. On a une liste d'attente d'inscription très importante, mais on préfère rester dans ce modèle-là parce que ça permet d'avoir des vrais échanges entre les personnes. C'est-à-dire que tous les participants et les orateurs restent sur les 2 jours et qu'on parle beaucoup entre nous pendant ces 2 jours. Ce n'est pas simplement écouter des conférences et réfléchir à ce que ces conférences nous appellent à faire, à changer, à modifier.
Et quel est le lien avec le développement, on va dire, de la planète ? Ça ne parle que de changement par rapport au bien-être, on va dire, de la planète, non ?
Si, mais par exemple, le thème de cette année, qui est aussi le titre du livre, c'est « Mutation ou effondrement ».
D'accord.
Parce que, au fur et à mesure des éditions, on a bien vu à quel point ce changement se rapproche de nous. Et comme j'ai coutume de le dire, il approche dans une vitesse qui accélère. Le problème, ce n'est pas la vitesse du changement, c'est l'accélération du changement.
D'accord.
Pour donner un exemple, une petite histoire pour expliquer ça, c'est un nénuphar. Ouais, on voit apparaître un nénuphar dans un étang. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire.
Oui, je connais. Si, allez-y.
Bon. Et puis, il y a des spécialistes qui viennent, qui disent, attention, c'est un nénuphar, il double de surface tous les jours. Et prenez garde parce qu'il faut 100 jours pour que le nénuphar ait couvert tout l'étang. Et donc, voilà, il commence à croître et puis les gens ne réagissent pas. Et c'est vrai qu'au 95e jour, il n'y a encore que 3% de l'étang qui est couvert. Et là, on commence à s'alerter un peu, il faudrait faire quelque chose. Mais le lendemain, 6%, 12%, 25%, 50%, 5 jours plus tard, l'étang est couvert de nénuphars. ce qui l'asphyxie et le tue, et tue le vivant à l'intérieur. Et on est dans un monde qui est en train d'évoluer comme ça. Et ce qu'on parvient à faire, et ça fait peut-être le lien entre développement personnel et engagement dans cette transformation, c'est que beaucoup de personnes me disent, mais Pierre, de toute façon, c'est foutu, ça sert à rien tant que les Chinois...
Ah oui, c'est ma dernière, c'est ma dernière question.
Mais j'anticipe, bah alors tu dois en
trouver une autre. Je trouverai d'autres.
Mais on nous dit, oui, évidemment qu'il faut faire quelque chose. Évidemment qu'il faut se retrousser les manches, pour plusieurs raisons. La première, et c'est un peu le sujet de mon deuxième livre, là, Oser, ça change tout. Ce livre est sous-titré « Ce que la vie nous apprend pour une vie pleine de sens ». Et ce qui fait la satisfaction de notre vie, c'est pas l'intensité des plaisirs qu'on y vit, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. C'est le sens de cohérence de notre vie par rapport à nos valeurs. Et moi, dans mes valeurs, ben, la bienveillance, elle est importante.
Mais la bienveillance envers tout, du coup.
Ben oui, bien sûr. La bienveillance, quand je suis profondément bienveillant envers moi, que je ressens cette bienveillance et qu'elle vit en moi, évidemment qu'elle va vers l'extérieur. C'est pas un truc égoïste. Et du coup, j'ai envie que ça aille bien pour les autres. Et
on va dire que c'est compliqué d'être bienveillant et d'un autre côté, aller mettre des pesticides sur son potager. Ça ne marche pas.
Mais évidemment, d'accord. Moi j'ai des enfants, ils ont 18 et 20 ans. Dans quel monde on les amène ? Mes enfants, ils me disent, de toute façon les enfants, on n'en aura pas nous-mêmes parce que ça ne vaut pas la peine et voilà.
Ah oui.
Et ouais, c'est quand... On me dit ça, mais évidemment, ça m'attriste. C'est la vie qui s'arrête. Et c'est une vie psychique. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre debout et de se battre et de faire en sorte qu'on change. Et je crois qu'il y a la possibilité de changer. Là, de nouveau, 250 personnes, des dirigeants. Il y a eu un moment d'émotion très, très forte pendant cette université. Parce qu'on se rend bien compte de l'immensité de ce qui est devant nous. Et en même temps, il y avait une forme de compassion naturelle naissante à l'intérieur du groupe. Compassion, ça veut dire quoi ? Je vois qu'il y a de la souffrance, je suis sensible à cette souffrance et je m'engage pour faire en sorte que cette souffrance diminue. Quand on voit des dirigeants avec des larmes aux yeux et puis avec... l'enthousiasme de se dire on va lancer des projets, on va accélérer, on va travailler ensemble, ça, évidemment, c'est passionnant et encourageant. Et ça devrait encourager chacun de nous à s'engager davantage parce que l'heure est grave et qu'il faut, vraiment que chacun se mette en mouvement. Il faut arrêter de dire que l'autre doit commencer d'abord parce que forcément, on est aussi l'autre des autres. Donc si... Ben, je vous dis que c'est les autres d'abord, ben alors ben, vous êtes l'autre et vous devriez vous mettre en travail. Mais tout le monde se rejette la pierre. Donc il faut sortir de ce système-là, il faut se retrousser les manches.
Et quel est le lien en fait entre... Ça rejoint un peu ce que vous dites, mais pourquoi est-ce que s'occuper de soi est si important dans le cadre de ce changement ? Je veux dire, quel est le lien entre les deux ?
C'est une question... extrêmement importante. Merci de la poser parce que moi, j'ai monté, notamment, j'ai développé une formation en ligne qui s'appelle Libérer votre force tranquille, qui vise à aider des gens qui sont soit, par exemple, des gens qui avancent vers le burn-out ou des gens qui sont en dérapage, les aider à se retrouver. Et en cherchant, je me suis rendu compte à quel point ce que je fais et que je propose est utile pour des personnes qui s'occupent des autres. Et donc,
pourquoi ?
Dans le domaine des soins, par exemple, dans le domaine médicaux, les gens qui s'occupent des autres sont plus à risque de burn-out. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés à la souffrance, qu'ils s'impliquent pour essayer de résoudre cette souffrance, mais que parfois cette souffrance, et même régulièrement, cette souffrance est de nature telle que finalement, ils ne parviennent pas à résoudre la difficulté d'un malade, parce que voilà, cette personne est atteinte d'une maladie qui est incurable ou bien qui a été repérée trop tardivement. Et donc, on est face à quelqu'un qui, tôt ou tard, va partir. C'est très confrontant d'être dans cette situation-là. Et qu'est-ce que les recherches nous montrent ? C'est que à force d'être en face de la souffrance, on souffre de ce qu'on appelle la détresse empathique. ou la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire que notre compassion se fatigue. Et pourquoi elle se fatigue ? Parce qu'on ne prend pas assez soin de soi.
Et donc le parallèle avec la Terre, on va dire, est pareil.
C'est exactement ça. On a besoin de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres.
Et quel est le lien ? Alors, pas le lien, mais quelle est la différence entre tomber dans l'égoïsme et l'égocentrisme et s'occuper de soi pour s'occuper des autres ?
C'est comme un médecin qui prendrait soin de sa santé. Ce n'est pas égoïste, parce que si mon médecin il est en mauvaise santé, il n'est pas capable de me soigner. Il ne sera peut-être pas attentif, il ne sera peut-être même pas venir jusqu'à ma chambre. Donc, il a besoin d'être en bonne santé. Mais quand on se soucie vraiment de soi, on ne se soucie pas que de soi. Et ça nous met en joie, et ça nous met en enthousiasme, et on a envie d'aller vers les autres. Et on se sent bien, parce qu'on n'a plus besoin des autres pour se sentir bien. On se sent bien soi-même. J'ai fait un parallèle qui n'a rien à voir, mais en fait, si. Il y a un très bon livre qui s'appelle « Le harcèlement fusionnel ». C'est quoi le harcèlement fusionnel ? C'est quand un couple, par exemple, dans un couple, une personne est fortement attachée à l'autre, à tel point que dès que l'autre s'éloigne, elle va aller le harceler, le chercher, le ramener, il faut que tu t'occupes de moi. Voilà. Quel est l'antidote de ça ? S'occuper de soi. On a besoin de s'occuper de soi pour ne plus être en besoin de l'autre. Et quand je ne suis plus en besoin de l'autre, je peux être vraiment en relation avec l'autre. Je peux être pleinement là pour l'autre, pour l'entendre.
Donc quand je vais bien, j'ai plus de force pour m'occuper de ma planète ?
Ouais,
pour en venir au sujet ?
Évidemment. On a eu deux journées formidables avec le programme Émergence qui avait lieu à Beaux-Arts il y a quelques jours. Organisé par Elios Kotsou, il a fait la préface de mon premier livre, Mon meilleur ami c'est moi. Mais,
Il
est aussi dans Transmutation comme orateur, comme participant et souvent comme invité parce qu'on aime bien l'avoir avec nous. Ce type tout à fait formidable et très engagé. Et il a fait venir notamment Satish Kumar. C'est un Indien, il a 83 ans. Il a une pêche hallucinante. Il nous raconte par exemple que depuis 50 ans, tous les soirs, il lit de la poésie à sa femme et que ça fait partie de ce qui contribue à son propre équilibre. Satish Kumar, grâce à la méditation, la compassion qu'il pratique, qui fait partie des choses que je pratique aussi, à 18 ans, il a décidé de sortir de son monastère où on l'éduquait parce qu'il était face à la menace nucléaire. C'était la guerre froide à l'époque. Il est parti à pied d'Inde et il a été jusqu'à Moscou à pied où il a été reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Et puis de Moscou, il est venu à pied à Bruxelles où il a été reçu aussi. Il a été à Paris. Là, ça s'est moins bien passé. Charles de Gaulle, qui était président à l'époque, l'a fait mettre en prison quelque temps. Il a pu sortir de prison. Il a quitté la France en allant à pied jusqu'à Douvres, puis à Southampton en bateau, et puis là, de nouveau à pied jusqu'à Londres.
Et c'est quoi son message ?
Et son message, c'est si je ne me soucie pas de moi, je ne suis pas en mesure de me soucier des autres. Je ne peux pas m'engager. Et si je veux vraiment m'engager, et j'ai besoin de faire en sorte d'être en forme. Et cette forme, elle passe par...
Oui, mais on ne peut pas faire les deux en parallèle, parce que si chacun doit d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper du bien-être de la planète et de trier et de, je ne sais pas, tout ce qu'on nous dit de faire, je veux dire, quelque part, on sera trop tard. Comment est-ce qu'on fait les deux ? Je donne un exemple simple. Est-ce que trier, est-ce que manger, on va dire pas, bio, local, etc., est-ce que ça contribue à notre bien-être ? Je ne parle pas physiquement, mais mentalement, moralement.
Ben, de nouveau, c'est ce qu'on raconte dans Oser, ça change tout. C'est que vivre en rapport avec nos valeurs qu'on a été clarifiées, et mettre ça en pratique, ça nous fait du bien. J'en parle souvent quand je fais des conférences sur l'estime de soi ou autre. Beaucoup de gens, quand on est en relation avec les autres, ou qu'on se compare tout le temps, est-ce que je suis bien, pas bien, par rapport aux autres, comment ils vont me trouver ? Pourquoi ? C'est parce qu'on essaye d'évaluer notre valeur par rapport à ce que valent les autres. Et c'est un système qui ne marche pas. Et pour en sortir, ce que les experts et moi je propose, c'est de regarder quelles sont nos valeurs. Le truc qui compte à nos yeux. Et de vivre en cherchant à avoir la plus grande cohérence avec ces valeurs. Et quand je vis en fonction de mes valeurs, je me sens mieux. Et donc, quand j'adopte tous ces comportements qui sont plutôt vertueux, non seulement ça fait du bien aux autres, ça fait du bien, ou en tout cas ça fait moins de tort, mais ça me fait du bien à moi aussi parce que je me sens rentré dans un mouvement. Je ne suis pas un rétrograde qui fait semblant qu'il ne se passe rien ou que je ne peux rien faire. Je fais une forme de, moi j'appelle ça de l'empuissancement. C'est les Québécois qui ont traduit le empowerment. L'empuissancement, c'est-à-dire je mets de l'énergie en moi, je la sens cette énergie. Et du coup, ben, j'ai envie d'en faire plus. Parce que ça m'enthousiasme.
Oui, mais en même temps, je trouve qu'on est très souvent cassé par d'autres aussi. Il y a deux formes. Il y a le harcèlement écologique, on va dire. Oui, mais c'est bien d'aller marcher, mais alors on ne prend pas l'avion. Je veux dire, ça ne va pas non plus. C'est qu'on est aussi dans la comparaison. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens qui vous disent « Oui, mais c'est bien d'aller marcher pour le climat. » Et puis d'un autre côté, tu pars en vacances, je ne sais où, en prenant 10 heures l'avion. D'un autre côté, je ne vais pas non plus... On ne va pas non plus faire du tort pour faire du bien.
Mais l'excès en tout nuit. Déjà, Aristote nous recommande comme une valeur essentielle la mesure. Ça ne sert à rien, si on ne sent pas aspiré à ça, de rentrer dans une révolution de vie. Je pense que c'est parce que c'est difficile à vivre une révolution de vie. Il faut déjà être solide.
Le changement,
pour faire ça.
Ce fameux changement.
Voilà. Pour donner quand même un exemple, ma fille, elle a 20 ans. Maintenant, elle est en train d'expérimenter pendant un an. Elle a pris une année sabbatique. Elle va dans ce qu'on appelle les ZAD, les zones à défendre, Notre-Dame-des-Landes et autres. Non pas pour défendre les zones, mais pour aller voir comment des gens peuvent vivre ensemble de manière épanouissante, sans argent.
D'accord.
Et le fait de s'entraider, me raconte-t-elle, je l'ai eu encore ce matin au téléphone, le fait de s'entraider de manière directe, ça donne de la joie. Ça crée des relations qui sont plus profondes. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement globalisé que tout le monde est complètement isolé. On est derrière notre petit Facebook, on met des posts et des trucs et des machins, et on est seul. Et il faut recréer du lien. Abdennour Bidar, qui est un philosophe passionnantissime, si
vient en Belgique. Aussi dans Transmutation.
Aussi dans Transmutation, nous dit que nous avons besoin de cultiver le triple lien. Le lien à soi parce que c'est la base, le lien aux autres parce qu'on en a besoin, mais tous les autres, et le lien à la nature. Et ma fille, voilà, elle a 20 ans, elle est partie s'engager, et c'est dur, physiquement. Elle m'a dit ce matin, quand je suis dans ma tente et que je me lève et qu'il pleut et que je dois aller me laver avec ma petite gourde au bord de l'eau, c'est pas
dur.
Évident, c'est dur. Mais ça a du sens à ses yeux, et elle a envie de participer à ce monde émergent. Et alors, il ne faut pas perdre de vue que... Nous, en tout cas moi j'ai un peu plus de 60 ans, donc je fais partie de cette génération qui a profité de la vie magnifiquement bien. On nous a confié un monde où tout était possible. La seule ligne d'horizon, c'était le progrès, mais ça avait été formidable. Et il y avait de l'argent, il y avait du travail, voilà. Et le monde dont mes enfants héritent, quand je le regarde avec lucidité, une des qualités clés qui est recommandé dans le monde qui vient, je vois bien que leur chance de survie est mise en cause, leur vision de l'avenir est quand même bien, bien gris, leurs conditions de vie avec la pollution, avec la destruction, enfin, je vais encore sur les planctons, on parlait des planctons, il n'y a plus de plancton, ben, il n'y a plus de vie sous-marine. C'est dramatique, ça veut dire qu'il n'y a plus de poissons. Ces poissons se nourrissent d'abord de plancton. Et voilà, je leur lègue un monde qui est quand même vachement plus pourri que celui dont j'ai hérité.
Mais c'est donc pas juste. Faut revenir en arrière. Hier en préparant l'émission, je parlais à quelqu'un, on m'a dit « Oui, mais alors quoi, je dois revenir au temps de mes grands-parents qui vivaient avec les mains dans la terre ?»
Bon, moi je ne crois pas.
Qu'on répond à ces gens ?
D'abord, je ne suis pas passéiste. Mais ce que je voulais dire, c'est que nos enfants, ils vont se rebeller. Ils vont, je pense, à raison, demander qu'on rembourse ce qu'on a pris et qui était tout à fait injuste. Vous imaginez, vous traversez le désert avec votre tribu, et il y a une réserve d'eau, et puis il y en a certains qui boivent énormément d'eau, alors qu'on devrait plus ou moins se rationner. Et puis, à mi-chemin, de toute façon, ils sont vieux, donc ils s'en foutent, ils vont mourir. Mais il n'y aura plus assez d'eau pour les enfants pour qu'ils arrivent jusqu'à l'oasis suivante. C'est quand même dégueulasse.
Ouais.
Et Alors, ce qui est difficile, c'est de se responsabiliser par rapport à ça sans culpabiliser. C'est vrai que majoritairement, on ne savait pas très bien, ou que nous souffrons tous de ce qu'on appelle les dissonances cognitives. C'est quoi les dissonances cognitives? C'est quand ce qui est en face de nous est en telle rupture par rapport à ce que l'on pense et ce que l'on croit qu'on ne peut pas l'accepter. Je voyais ce week-end un bon ami, qui dirige un ensemble de concessions de voitures allemandes et qui publie un truc avec un fantaisiste qui raconte que finalement le réchauffement climatique, ce n'est pas dû aux humains, etc. Bon, d'abord, c'est une hérésie. Il y a un tel bagage scientifique aujourd'hui pour montrer le lien. D'abord, l'existence du réchauffement climatique, ça on le voit toujours maintenant, donc on s'en rend mieux compte. Mais le lien direct entre l'activité humaine et ce réchauffement climatique et la destruction de la nature en général. Mais lorsqu'on dirige un réseau de distribution de voitures dont la fabrication et l'utilisation consomment des ressources gigantesques, je comprends que ce soit à ce point difficile d'admettre que peut-être que c'est à cause de soi que c'est comme ça. Ce qui voudrait dire que si c'est de ma faute, soit je deviens coupable, soit je change.
Et si ces personnes, vous n'êtes pas industriel, je le sais, mais si, il nous reste 4 minutes, mais si ces personnes changent, ils vont vivre de quoi? Parce que ça, c'est aussi une remarque qu'on me donne. Il faut 5 ans à un agriculteur pour passer du non-bio au bio, enfin du non-écologique à l'écologique. Il lui faut 5 ans. Il vit de quoi pendant 5 ans?
Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas tout ou rien. Mais ce qui est important, c'est qu'on rentre dans ce système de transition, que chacun fasse du mieux qu'il peut, tout en augmentant. Je suis en train de travailler avec des amis en France sur un programme qui s'appelle les 4 P, 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 P. Et c'est quoi ces plus petits pas possibles?
Plus petits pas possibles. C'est... On revient ça... à notre colibri.
Mais vous voyez, l'image du colibri, je pense malheureusement qu'elle joue contre elle-même. Oui. Elle est relativement juste, mais les gens ne comprennent pas bien, ils en ont marre, ils disent OK, c'est facile, et puis ça ne suffit pas. Et c'est vrai que ça ne suffit pas de faire que le colibri. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et j'en parlerai avec les jeunes. Mais l'histoire du PPP, c'est chaque mois, c'est faire un pas de plus. Un pas de plus. Si chacun de nous, chaque mois, met en place une évolution positive dans ce sens de la transformation et qu'on voit que les autres, ils avancent petit à petit aussi, parce que c'est difficile d'avancer tout seul. Il vaut mieux avancer tout seul que pas avancer du tout, de toute façon. Il ne faut pas attendre que l'autre, puisque nouveau, on est l'autre. Pendant un mois, je mets en place une nouvelle pratique et puis le mois suivant, non seulement je la garde, mais j'en mets encore une autre. Et donc, j'y vais progressivement. Je ne pense pas qu'une révolution soit bienvenue aujourd'hui parce que ça donnerait lieu à une révolution réelle, politique, avec la montée des extrémismes. Et les extrémistes ne sont certainement pas les plus clairvoyants par rapport à ce qui se passe. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les jeunes qui ont constaté à quel point on les a spoliés en leur léguant un monde pourri, je pense qu'ils vont mettre en place toute une série d'activités pacifiques pour l'instant, mais pacifiques que ça à l'avenir, parce qu'ils ont besoin de sauver leur monde. Et si c'est nous qui le détruisons, je pense qu'il va se passer des choses pas très agréables et indispensables. Et honnêtement, moi, je les encourage en cette voie. Parce que le politique ne répond pas du tout à la hauteur de ce qui se passe. Et pourquoi le politique ne répond pas? Parce que nous, citoyens, nous ne les poussons pas suffisamment.
Oui, notre façon agir. De consommer, de vivre, ne pousse pas assez les politiques, on va dire.
Oui, et même nos votes. On continue à voter pour les mêmes personnes qui, finalement, protègent plus leur job que la planète. C'est assez honteux.
Donc on devrait avoir chaque fois, dans chaque geste qu'on fait, en perspective le bien-être de la planète.
Ben oui.
Quasi.
Il y a un journaliste qui était parti dans une tribu indienne et il est invité à dîner le jour où il arrive et à un moment donné, ils commencent à manger, il se rend compte qu'il n'y a pas de serviette et il part dans sa voiture, prend des serviettes en papier, il les amène. Ce que lui dit le chef, c'est... Des décisions comme ça, on ne les prend pas comme ça. On se demande quel est l'impact qu'aura notre décision sur les 7 générations à venir.
D'accord.
C'est une bonne question à se poser.
Ça, c'est une bonne fin. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission mercredi.